Bonjour, la danse des mots sur RFI qui aujourd'hui va vous emmener au théâtre dans l'excellent petit théâtre ouvert qui naguère fut fondé par Lucien et Micheline Atoun et qui continue une carrière tout à fait illustre avec en particulier jusqu'au 4 février une pièce d'Alexandra Badea, Europe Connection, dont nous allons parler aujourd'hui avec cette auteure dont je ne sais pas trop s'il faut dire qu'elle est française d'origine roumaine ou qu'elle est roumaine francophone et qu'elle vit en France. Bonjour Alexandra Badea.
Bonjour.
Alors, vous avez deviné quelle était la première question que je vous poserais. Française d'origine roumaine ou roumaine francophone vivant en France ou un petit peu les deux?
Franco-roumaine, j'ai deux passeports désormais, donc voilà, je suis un peu des
deux. Vous passez entre les gouttes quand on vous pose une question comme ça, vous répondez entre les deux.
Non, mais j'aime beaucoup ce... On me présente pas souvent en tant que franco-roumaine, parfois on oublie que je suis d'origine roumaine, parfois on me présente comme une auteure roumaine, mais quelque part, moi j'écris en français, donc je n'écris pas dans ma langue maternelle, donc je m'identifie aussi avec cette partie, cette nouvelle culture en moi, parce que je porte l'identité de la langue dans laquelle j'écris aussi.
Vous avez toujours écrit en français ?
Je n'ai jamais pu écrire en roumain, j'essaie encore de débloquer cette chose et je n'arrive pas encore, j'espère qu'un jour j'arriverai.
Parce que c'est un souhait de votre part?
Non, c'est pas un souhait, oui, ça serait un souhait de pouvoir écrire dans ma langue maternelle aussi, c'est une richesse d'écrire dans plusieurs langues. Mais je pense que si j'avais pas rencontré la langue française, j'aurais pas pu écrire. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est fait au moment où j'ai essayé d'écrire une sorte de scénario, mon premier texte qui s'appelle Monde d'emploi, où j'avais envie de parler de ce passage d'une culture à l'autre, d'une construction identitaire, personnelle. Et je me suis mise devant l'ordinateur et le texte arrivait un peu dans les deux langues en fonction de l'endroit où le personnage se trouvait. Mais à chaque fois quand j'arrivais sur le roumain, ça bloquait. C'était comme si il y avait une petite voix quelque part dans mon cerveau qui m'évaluait tout le temps. Et il y avait des mots que je n'arrivais
pas. C'est intéressant de voir que vous vous sentiez plus évalué quand vous écriviez dans votre langue maternelle, puisque c'est votre langue maternelle, que quand vous écriviez en français.
Oui, bien sûr, mais c'est en même temps c'est naturel, je pense. Quand on sait d'où je viens,
moi j'avais 10 ans. Pourquoi dites-vous que c'est naturel?
Parce que moi, je suis née dans une Roumanie qui était c'était un état totalitaire à l'époque. C'était un état où la censure, elle était très importante, où l'éducation, ça se faisait par la force, où on lisait pas n'importe quoi, on était obligé d'apprendre par cœur des poèmes patriotiques. Donc la langue était aussi une langue d'endoctrinement, de manipulation,
comme si pour vous le français était une langue dans laquelle on avait le droit de se tromper sans se faire taper sur les doigts.
Déjà ça, parce que c'est une langue étrangère, c'est une langue dans laquelle je n'ai pas de compte à rendre. C'est comme ça que je me sens. En français, si je fais des fautes, je fais des erreurs, je casse la syntaxe, on va me pardonner parce que c'est pas une langue dans laquelle je suis née. J'ai commencé à apprendre le français quand j'avais 13 ans. Je vis en France depuis l'âge de 23 ans. Donc c'est une histoire récente avec le français. Tandis que le roumain, c'est une langue, je dois énormément à cette langue. Et je pense que pour ça, j'aimerais qu'un jour, j'arrive à écrire dans cette langue. Mais c'est aussi, je pense, le moment où je suis arrivée en France, en 2003, c'est aussi un moment personnellement de libération de quelque chose. C'est pas la libération d'un pays, parce que c'est déjà un pays libre depuis longtemps, mais c'est une libération intérieure. Ça a ouvert des nouveaux chemins, et notamment l'écriture. Donc voilà, c'est la langue dans laquelle je me suis construite toute seule.
Alors ça, c'est vraiment intéressant, d'autant plus que le spectacle Europe Connection qu'on peut voir au théâtre ouvert est un spectacle bilingue, puisque la plus grande partie est en français, mais qu'il y en a toute une partie qui est en mandarin avec des comédiens qui viennent de Taïwan. Mais on y reviendra tout à l'heure. Cette Europe Connection est donc une pièce qui met en scène un jeune homme ambitieux, cynique on peut dire, qui sort de l'ENA, qui est assistant parlementaire, qui veut toujours plus d'argent, plus de surface sociale, et sur fond de prise de pouvoir par les multinationales, ce qui est tout à fait révélateur de notre société moderne. On va le voir d'abord gravir des échelons et ensuite exploser, puisqu'il a ce qu'on appelle parfois un burn-out, en tout cas, il a une espèce de saturation de travail. Est-ce que dans ce texte que vous proposez à Théâtre Ouvert, Alexandra Badea, il y a une volonté de dénonciation? Est-ce qu'on peut le prendre comme ça, au premier degré, pour ce qu'il dit, pour ce qu'il montre et ce qu'il met en évidence?
J'aime pas trop le mot dénonciation, c'est plutôt, je préfère le mot analyse, révélation. Ce texte, à l'origine, c'est une commande d'une radio.
De quelle radio ?
De France Culture. C'était écrit pour des fictions, pour des micro-fictions. C'est une émission qui n'existe plus aujourd'hui, qui a changé de format et de nom. Mais à l'époque, c'était diffusé avant le journal de midi. Et il y avait 5 minutes par jour, d'où la structure du texte qui est divisée en 10 épisodes. Et pour moi, c'était important. On est parti avec le réalisateur qui m'avait invité dans cette émission sur une thématique européenne. Et j'avais choisi les lobbies parce que ça me paraissait un sujet crucial. Ça me paraissait très important de le traiter.
Alors, je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait où précisément on voit à peu près quel est le travail de ce jeune ambitieux au début de la pièce et on voit même son emploi du temps.
À 11h, pause café avec les autres assistants au bar du Parlement. Là, tu peux faire ton lobby dissimulé parmi tes compagnons. L'assistante norvégienne d'un député écologiste s'énerve un peu contre toi en te rappelant les chiffres.
Un Européen sur trois est obèse ou en surpoids.
Très vite, vous vous divisez en deux camps. Toi, tu prêches les résultats d'une étude scientifique bidon qui dit que les consommateurs perçoivent correctement les étiquettes actuelles.
Mais tu sais très bien qu'elle a été financée par les industriels.
Pourquoi porter à la confusion ? Le consommateur déjà paumé dans l'offre accablante de produits va avoir mal à la tête quand il verra d'autres étiquettes sur les emballages de sa nourriture préférée.
Tu sais parler, tu parles bien, tu prends les mots des autres mais tu te les appropries parfaitement. Qui pourrait douter de toi ?
À 11h30, tu te mets à travailler sur les amendements. Texte proposé par la commission.
Il convient, pour les mentions obligatoires, de tenir compte de l'intérêt manifesté par la majorité des consommateurs à l'égard de l'indication de certaines informations.
Amendement. Afin d'éviter des déchets d'emballages inutiles, l'étiquetage obligatoire des denrées alimentaires devrait se limiter à des informations de base qui présentent un grand intérêt pour la majorité des consommateurs. Justification. Il n'est pas utile de surcharger l'emballage d'informations. Cela pourrait conduire à une consommation inutile. Des cartons.
Alexandra Badea, on vient d'entendre donc un extrait de Europe Connexion dont le texte est publié aux éditions de l'Arche, dans une collection d'ailleurs destinée au théâtre qui s'appelle Scène ouverte. Et quand on voit ce texte, on voit que c'est un texte qui est écrit, comme vous le dites, en 10 petites séquences, mais sans qu'il y ait d'assignation précise du texte à un comédien. Ça laisse le libre choix au metteur en scène, qui est Mathieu Roy en l'occurrence, d'atomiser le texte comme il veut.
Oui, moi, à la base, je suis metteur en scène et j'ai commencé à écrire...
À la base, vous parlez comme votre comédien. À la base.
Oui, voilà, c'est moi qui ai écrit le texte, donc du coup, je me retrouve un peu dans son langage. Oui, je suis metteur en scène et j'ai commencé à écrire aussi parce que je ne trouvais plus des textes qui me permettaient d'ouvrir mon imaginaire et de faire ma création de metteur en scène. Donc du coup, je respecte beaucoup la place du metteur en scène et la place du comédien aussi dans le processus artistique. Et j'aime bien leur donner de la liberté de rajouter leur propre écriture à mon écriture. Donc pour moi, c'est une matière, ça pourrait aussi être un petit roman.
Qu'est-ce que ça veut dire, rajouter leur écriture à la vôtre ?
La mise en scène, c'est une écriture. On écrit avec les corps, on écrit avec le son, les images, les mouvements.
Et on écrit aussi, en tout cas en ce qui concerne la mise en scène d'Europe Connexion, en coupant le texte, en donnant tel texte au comédien, tel texte à la comédienne, en changeant de langue. Là aussi, on en reparlera tout à l'heure. Donc, c'est une façon de faire un tableau, de mettre le texte en espace.
Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que j'ai pas désigné des personnages sur ce texte, parce que pour moi, ça peut être aussi un personnage, un acteur qui incarne toute cette parole. Et d'ailleurs, il y a eu une mise en scène l'année dernière en Suisse où c'était traité comme ça. Il y aura une autre mise en scène à Toulon cette semaine. Je ne sais pas comment ils l'ont travaillé. Il y a eu des lectures où ça a été travaillé sous la forme d'un chœur. Donc voilà, j'aime beaucoup ces portes ouvertes vers la mise en scène. Pour moi, c'est à la fois une parole intérieure d'une personne qui n'arrive plus à se parler à soi, et aussi une parole qui s'adresse au public. Donc j'aime bien aussi ces endroits d'ambiguïté. On ne sait pas si c'est notre propre voix, si on pourrait devenir ce lobbyiste, ou si on aurait pu être comme lui, ou si c'est la parole intérieure d'un personnage qui est loin de notre réalité.
Est-ce que vous dites, on le sent même dans un parti pris grammatical, puisque l'ensemble du texte est à la deuxième personne. Tu fais ceci, tu fais cela, et on a l'impression au départ que ça s'adresse en effet au personnage. Hein. Tu es allongé dans le king size bed d'un luxueux hôtel international, tu revois tes notes, tu attends ce moment depuis une éternité, mais vous dites que ça peut être aussi le spectateur qui le prend pour lui.
Bien sûr, il y a des moments où le spectateur doit choisir aussi. Et quand je dis choisir, c'est d'une manière inconsciente. Et parce que c'est important aussi dans mon écriture, je laisse de l'espace aussi au lecteur et au spectateur. Je veux pas tout dire. C'est pour ça que dénonciation, ça me convient pas très bien, parce que ça dirige la lecture du spectateur ou du lecteur. Tandis que dans mon écriture, je pense qu'il y a beaucoup d'espace pour que lui-même, il s'imagine son dispositif, il imagine les personnages et ainsi de suite. Donc ce tu, ça peut être un tu intérieur, ça peut être une parole adressée au spectateur, ça peut être aussi un personnage extérieur qui regarde ces personnes dans les couloirs du Parlement européen, comme quand nous on regarde un documentaire à la télévision.
Pique-nique, c'est le nom de ce morceau qu'on entend, qui est joué et composé par le pianiste Jonathan Avishai, avec Donald Contomanu à la batterie, ce qui nous ramène à Alexandra Abadea, à notre Europe Connexion. Vous avez dit à plusieurs reprises, en répondant à ma question, non, non, ce n'est pas une dénonciation. Ça m'intéresse, parce que ce n'est pas une dénonciation, soit, mais vous écrivez quand même un texte qui est dans une sorte d'indécidable. Donc, vous provoquez un choix chez le spectateur qui devra interpréter dans un sens ou dans un autre ce que vous lui dites.
C'est ça, vous avez très bien résumé. Je ne sais même pas ce que je pourrais rajouter d'autre. Moi, j'essaie avec mon théâtre de provoquer de la réflexion. Je pense qu'on est dans un monde où on nous dit tellement ce qu'on doit penser des sujets d'actualité, de la politique, de ce qui se passe autour de nous, et on oublie de comprendre par nous-mêmes la réalité de ce monde. Et je pense que c'est important de revenir à ça, à une réflexion, mise en question, une remise en question. C'est ça que j'essaie de faire. Donc je veux pas donner des réponses, je veux pas mettre des étiquettes sur les personnages. Ils sont méchants, ils sont merveilleux. C'est des êtres humains comme nous tous. Ils sont à la fois complices, ils sont à la fois victimes de ce système, et ils essaient de s'en sortir comme nous tous.
Moi, je vous propose d'écouter un autre extrait du spectacle Europe Connexion.
Une nuit sans abeilles. Une nuit sans corps mort, dans un silence total.
Le matin, T'as envie de disparaître. T'as envie de te foutre dans le premier avion et de partir loin sur une île déserte au milieu des aborigènes. Traîner sur une plage et te nourrir des algues et des fourmis. Ton imaginaire colonial te joue des tours encore. Plus t'y penses, plus t'as envie de tout balancer aux chiottes. Ton job, ta famille, tes crédits, plus rien à foutre. Juste s'échapper. On frappe à la porte, tu ouvres, ta femme. T'as sans doute oublié de désactiver l'option géolocalisation de ton portable et elle est là maintenant. Elle pose sa main sur ton front.
Tu brûles. Il te faut du repos.
Elle prend ton portable et elle compose le numéro de ton chef en te disant...
Fais-le pour nous. On compte sur toi. On a besoin de ça.
Le chef hurle. Tu l'écoutes sans parler et tu sais tout ce qu'il va te dire. T'es juste surpris quand t'entends que l'assistant parlementaire a compris ton message, malgré ton débrayage. Le projet est dans les tuyaux. Aucun centime de perte. Tu n'es qu'un grain de sable. Avec ou sans toi, la machine tourne. Et soudainement, ça te soulage. Le chef te comprend. Il te propose des vacances, un mois, deux mois, tout ce dont tu as besoin pour revenir en force. Ta femme te sourit. Elle te dit...
Tu le fais pour nous. Tu le fais bien. Je suis fière de toi.
On vient d'entendre les voix de Johanna Silberstein et de Brice Carwa, alors que dans ce même spectacle, on entend également Chi Wei Tseng, Wei Lin Wang et Chi Chung Wang. On a entendu aussi un bruitage extrêmement délicat. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement comment on entend ce bruitage et pourquoi dans le dispositif scénique qui est offert au théâtre ouvert?
Je ne sais pas trop ce qu'il a pensé, Mathieu Roy, quand il a choisi cet effet. Je pense que c'est une manière de nous faire entrer dans l'univers intérieur de ce personnage et dans son hallucination.
Il faut préciser aussi que quand on arrive, il ne faut pas arriver trop en retard, on ne peut pas être en surnombre parce qu'on s'assoit et on vous met un casque sur les oreilles, qu'on est libre d'enlever si on veut. Mais on nous suggère quand même assez fortement de le mettre. Et qu'est-ce qu'on entend dans ce casque ?
On entend les voix des comédiens, on entend aussi des voix préenregistrées. Par exemple, on vient d'entendre la voix de sa femme qui l'obsède. Cette voix, on l'entend pas au plateau, on l'entend juste au casque. Et on entend aussi toute la partie sonore, tout cet univers sonore qui nous aide à naviguer à l'intérieur de ce personnage et à partir avec lui dans son chemin, dans son délire aussi, dans son burn-out. Et dans sa tentative d'échapper à ce système.
Alors c'est un univers sonore assez parcimonieux. Il y a de la musique, mais qu'on entend à peine. Il y a un peu de bruitage, il y a des graines, il y a parfois des comédiens qui se servent du champagne, la bouteille est vide, les verres sont vides, ils feignent de boire, mais dans le casque, on entend les bulles. Donc il y a à la fois un effet de réalité, qu'on n'a pas sur le plateau, et un effet de déréalisation, puisqu'on l'entend dans le casque.
Oui, je pense qu'il a voulu aussi travailler sur le décalage entre ce qu'on voit et ce qu'on entend, parce que, et je pense là qu'il, son choix est très juste, parce que dans mon texte, je montre aussi le décalage entre ce que les politiques nous racontent et ce qui se passe derrière. Parce qu'on nous raconte qu'on passe des lois pour défendre l'intérêt des citoyens. Et quelque part, ces lois, parfois, sont manipulées par les lobbies et même écrites par les lobbies. Et il suffit juste, parfois, les gens me demandent, mais d'où tu as eu cette information? Le premier extrait que vous avez entendu, c'est vraiment la source, c'est le site du Parlement européen et de la Commission européenne. Parce que là, on voit toutes les versions intérieures à une loi qui a été adoptée. Alors, et on voit comment l'intention de base a été détournée.
Est-ce que c'est une mise en scène de la démagogie?
Bien sûr, oui, c'est une mise en scène de la démagogie et surtout c'est une mise en scène de notre manière à s'arranger avec ça. Parce que moi c'est ça qui m'intéresse, j'essaie toujours dans chaque texte de montrer l'endroit où le politique interfère dans l'intime et comment l'intime résonne et comment l'intime, il peut trouver sa liberté de se révolter et de sortir de ça. C'est ça qui m'intéresse à provoquer chez le spectateur. Même si ce personnage, il fait un compromis, il hésite à un moment donné, mais finalement, il reste dans le système parce qu'il a peur de le quitter. Moi, j'aimerais que le spectateur partent du théâtre avec l'idée que tout est possible à reconstruire, que jamais rien n'arrive trop tard, que c'est possible de changer des choses à l'intérieur. Et si on change des choses à l'intérieur de nous-mêmes, on peut déplacer des choses qui se passent dans le monde.
Comme une mise en scène d'un conditionnement qui voudrait être une pédagogie du déconditionnement.
Voilà, mais c'est ça qu'on essaie de faire tout au long d'une vie. On vient au monde avec conditionné par le pays dont on vient, par le contexte social, par la famille qui nous éduque, par l'école. Donc on est modelé tout au long de notre enfance, de notre adolescence, de notre jeunesse. Et à un moment donné, il y a comme une sorte d'explosion où on essaie aussi de se créer par nous-mêmes et de s'inventer d'autres identités, de s'inventer d'autres manières d'agir sur le monde. Je pense que c'est ça qui est important.
L'explosion du personnage à la fin de la pièce est-elle à l'image de cette explosion que vous évoquez là ?
Oui. Je pense que la crise dans chacun d'entre nous, elle est très douloureuse au départ, mais je pense aussi que c'est une manière de se sauver, c'est une manière de se rendre compte qu'il y a quelque chose à changer à l'intérieur. Une crise n'est pas juste quelque chose de négatif. Une crise, ça peut être aussi positif parce que ça amène un questionnement et une remise en question et la création d'autre chose.
Il y a un mot qui revient à plusieurs reprises dans votre texte, Alexandra Badea, c'est « bidon ». Au tout début, vous parlez d'une enquête bidon, parce qu'en effet, elle a été commandée par des industriels et que le jeune ambitieux va la mettre en avant parce qu'il y a des grands mots et qu'elle peut convaincre. Et à la fin, quand il arrête de faire son métier, il dit « bon, bah, je pourrais peut-être me recycler, j'aurai un cours à Sciences Po et je lui donnerai un intitulé bidon ». Ce mot, justement, qui est un peu familier, peut-être donner une clé de votre rapport au théâtre et à la langue.
Oui, je cherche un quotidien dans le langage. Je travaille beaucoup sur l'oralité, sur la musicalité des mots. Je pense que ce mot me plaît. Et c'est aussi pour casser un peu ce côté très sobre, sérieux. Mettre bidon à côté d'un cours à Sciences Po, c'est un peu
provoquant,
voilà. Mais parfois, on ne sait pas d'où les mots viennent. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est intéressant surtout quand on écrit dans une langue étrangère, je pense. Parce que les mots nous échappent parfois. Le sens des mots, je ne le maîtrise pas complètement. Au départ, je faisais lire mes textes par des comédiens pour me dire si c'était juste. Et ils me disaient, ce mot, il n'est pas juste dans le contexte. C'est trop faible par rapport à ce que tu veux dire. Il faudra à la place mettre ce mot. Et moi, je leur disais, mais ce mot, je ne l'aime pas. Et ils me regardaient avec des grands yeux. Je disais, mais comment, c'est le sens ou c'est l'amour que tu as pour les mots ? Et je pense que parfois, c'est aussi l'amour que je peux ressentir quand j'entends un mot, le goût pour sa sonorité, pour sa musicalité qui l'emporte.
En même temps, c'est l'amour pour des mots que vous ne comprenez pas toujours. Il y a, dans la mise en scène qu'on peut voir au théâtre ouvert, toute une partie qui est en chinois, en mandarin, pour être précis, et ce sont des comédiens et comédiennes taïwanais qu'on voit et qu'on entend sur scène. Ça commence en chinois. Et j'ai mis un certain temps, vous allez dire si je me trompe d'ailleurs, peut-être que je me trompe, ça commence en chinois et puis après il y a un texte qui reprend en français et je me suis dit que c'était vraisemblablement la traduction de ce que j'avais entendu en chinois 3 minutes avant. Mais peut-être que je me trompe complètement.
Non, c'est tout à fait ça.
Une chance.
C'est tout à fait ça, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Oui, moi je trouvais ça beau parce qu'en fait ça commence dans une langue étrangère, dans une langue qui nous est assez, qu'on n'entend pas au quotidien en
France. Ça c'est sûr,
France.
Pour être étrangère, si on n'a pas fait de chinois, on ne comprend rien. Hein. C'est du chinois pour moi.
Mais voilà, c'est ça, je pense qu'il voulait dire, c'est du le langage politique, le langage qu'on parle à Bruxelles, parfois c'est du chinois, on ne comprend rien de ce qui se passe autour. Et je pense que c'est ça qu'il a essayé, Mathieu, de faire entendre, le fait que les choses nous échappent, on ne comprend plus cette langue-là. Et après, bon, bien sûr, on revient à la langue qu'on maîtrise.
Oui,
et
mais ce n'est pas pour rien que ça soit une langue si lointaine, en tout cas pour l'Occident, parce que ça met tout ça sur fond de mondialisation.
Bien sûr, aujourd'hui, une décision prise à Bruxelles a des effets à Shanghai et vice-versa. On vit dans un monde globalisé où tout circule beaucoup plus vite qu'avant.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous venez de parler d'un théâtre de l'intime, du sens des mots, du sens intime des mots, en même temps que la fiction que vous mettez sur scène est particulièrement peu intime. Bon, on voit ce jeune homme, il y a sa femme qui, visiblement, elle est contente de son confort, de son argent, elle fait pression, elle se rend même peut-être pas très bien compte pourquoi, etc. Mais en même temps, le cadre qui entoure tout ça est un cadre politique complètement dépersonnalisé. S'il y a bien peut-être un écrivain à qui je pouvais penser en lisant votre texte, c'est Michel Vinavert, mais il n'y a pas beaucoup d'auteurs de théâtre qui parlent justement de politique et du monde du travail.
Oui, c'est la comparaison avec Michel Vinavert me flatte parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup et j'aime aussi son engagement son obsession de l'entreprise, et c'est quelqu'un qui connaît très bien ce milieu et il nous a ouvert des portes vers cet endroit-là. Pour moi, c'est très important de me relationner à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe dans la politique. J'ai conçu ce texte, et en général, je pense que mes textes sont conçus comme ça. C'est comme au cinéma, on part d'un plan large, on voit tout ce qui se passe à Bruxelles, on commence à s'approcher du personnage, et à la fin, on reste avec lui dans sa tête.
Eh bien, merci beaucoup Alexandra Badea d'être venue nous parler d'Europe Connexion, qui est paru donc aux éditions de l'Arche, qu'on peut voir au Théâtre Ouvert, c'est Cité Véron, c'est à côté du boulevard de Clichy dans le 18e arrondissement de Paris. On peut voir ça jusqu'au 4 février dans une mise en scène de Mathieu Roy. Merci bien d'être venue nous en parler dans La Danse des mots, qui est une émission proposée par le réseau Canopé et RFI. Lucie Bouteloup, Marjorie Bertin, Yvan Hamard.